Il est 8h. Belle journée à tous. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. Bienvenue à vous. Dans un instant, vous retrouvez l'interview de Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit aujourd'hui un journaliste, écrivain, membre de l'Académie Goncourt, Pierre Assouline. C'est ce week-end le grand retour du Festival du Livre à Paris après 2 ans de pandémie. D'abord, les principaux titres de l'actualité marqués bien sûr par la guerre en Ukraine, la prise de Mariupol. Vladimir Poutine revendique la victoire depuis jeudi, mais au-delà de cette ville martyre, la Russie vise clairement maintenant le contrôle total du sud de l'Ukraine et du Donbass, une zone hautement stratégique, notamment dans la région de Lugansk. Le choc à Chelles, en Seine-et-Marne, où un adolescent de 16 ans a été poignardé de 5 coups de couteau hier. Il a été agressé au sein du lycée professionnel Louis Lumière et a été transféré dans un hôpital parisien. L'assaillant est toujours en fuite. Et à J-1 avant le second tour de la présidentielle, beaucoup pensent aux vacances de printemps, puisque 3 zones scolaires sont en vacances en même temps. Autant dire que certains pensent davantage au barbecue qu'au bulletin de vote. Mais il reste encore, c'est important de le souligner, quelques heures pour donner procuration. Tout de suite, place donc à l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous. Qui, pendant le confinement, nous a aidés et nous a accompagnés? Qui, dans cette prison, nous a permis de nous évader? Qui est discret? Qui est fidèle, comme un ami qui ne trahit jamais? Le livre. Et vous, vous le symbolisez, Pierre Assouline, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Et vous le symbolisez pas seulement parce que vous êtes de l'Académie Goncourt. Votre personnage dans le paquebot, votre livre, confie. J'ai passé une vie à lire des livres, à les décrire, à les regarder. Aujourd'hui, je les fabrique et même j'en écris. C'est vous, ça ?
Un petit peu quand même. On met toujours de soi dans le narrateur d'un roman. Donc, c'est inévitable.
D'accord, mais c'est toute une vie consacrée au livre, à ce qui est écrit, à la littérature.
À lire et à écrire, oui.
Alors, pendant ce week-end, le Salon du Livre revient après 2 ans d'absence et même de polémique. C'est le festival. Le Festival du Livre, qui s'installe au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars. Et il change donc de lieu, de forme, et en même temps, j'ai envie de dire, de sens et de style. Et qu'on le veuille ou pas, c'est un événement culturel, un événement.
C'est un événement à plus d'un titre. L'organisation a changé. Le lieu, vous l'avez dit, n'est plus le même. La surface non plus. La distribution des stands est différente. C'est très beau. Il y a surtout une très grande innovation que je veux souligner parce que moi, ça fait 40 ans que je vais au Salon du Livre. J'étais au premier, il y a 40 ans. L'entrée est gratuite. Ça n'a l'air de rien, mais...
Ça change tout.
Ce Salon du Livre, qui est le plus important de France, qui s'est présenté pendant très très longtemps comme la première librairie de France, pendant 3 jours, à juste titre, l'entrée était payante et c'était exhaustif. C'était incroyable.
C'était une erreur.
Et c'est, l'entrée est libre.
N'attirait pas le grand public. Or, aujourd'hui, le grand public va trouver des livres de toute nature, des bandes dessinées, des mangas, des récits, des biographies, des romans comme le vôtre, le paquebot. Et ça, le paquebot, c'est un fait réel qui s'est produit en février 1932.
Voilà, pendant le printemps 1932, il y a eu une croisière inaugurale d'un grand paquebot de messagerie maritime qui s'appelait le Georges Philippard, du nom de l'armateur. Et à l'époque, il y avait une grande rivalité entre toutes les compagnies. Hein. Il faut imaginer, c'est l'âge d'or des paquebots, l'âge d'or des croisières. Et donc, cette croisière va relier Marseille à Yokohama et retour avec des escales dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine.
Le bateau, vous le décrivez, 185 cabines de première avec cabinet de toilette particulier, 132 cabines de seconde, 102 de troisième, 650 entrepôts, puis la sécurité, 20 canots de sauvetage et 347 membres d'équipage. Il mesure 120 mètres de long, tout blanc, et 20 mètres de large. Ouais. Donc on voit dans quel univers vont naviguer un certain nombre d'invités.
Voilà, des invités pour cette inauguration très prestigieuse. Ils sont anglais, français, américains, parfois. Il y a des gens très connus, d'autres qui sont moins connus. Mais en fait, en principe, la croisière s'amuse, en principe. Ils vont faire escale à Hanoï, ils vont faire escale à Shanghai. Mais la plupart du temps, c'est une villégiature.
À bord, Ce sont des rencontres, des discussions, des palabres, j'ai envie de dire des jeux. Ils parlent, comme vous le dites, dans toutes les langues. Et ils parlent de voyages, d'aventures, et peut-être un peu de la situation politique en Europe avec la montée d'Hitler.
Ils parlent de deux choses qui les inquiètent. Ils ont deux soucis, enfin certains d'entre eux, notamment le narrateur. Le premier souci, c'est la sécurité à bord, parce que le tableau électrique est défaillant. Il y a des petits courts-circuits qui les alertent. Et donc, il a un côté... comme on dit aujourd'hui, lanceur d'alerte, mais moi je dirais Cassandre, parce que ça existe depuis toujours, les Cassandres.
Mais pourtant, ils prennent le bateau.
Ils prennent le bateau, mais peu savent qu'il y a ces problèmes de sécurité. Et puis l'autre chose, qui est le grand souci de l'époque, à l'époque, dans les journaux français, on ne parle que de ça, même les journaux européens, à savoir le résultat des élections législatives en Allemagne, qui a vu le parti national-socialiste des travailleurs allemands, le parti nazi, arriver deuxième. Et ça inquiète évidemment beaucoup.
Alors, oui, parce qu'il y a les courageux dont vous parlez, qui eux dénoncent déjà la dictature qui s'annonce.
Oui.
Il y a les moins courageux, il y a les lâches et il y a ceux qui soutiennent déjà les nazis.
Oui, à bord, il y a des industriels de la Ruhr qui ont tendance à calmer dans les discussions en disant « Mais bien entendu, il est assez hystérique, c'est Hitler, mais on saura le calmer, on saura faire. Toute puissance de ce sentiment qui consiste à dire on va l'instrumentaliser comme il faut, puisqu'après tout, on l'a financé, et on saura faire avec lui. Sauf que ça n'a pas été le cas, comme on le sait.
Il papote, il drague un peu, il lise beaucoup, Stefan Zweig, Thomas Mann, Kessel, et l'un d'eux dit, et je le cite, « Sans la littérature, je passerai mon temps à maudire mon époque ».
Oui.
C'est aussi vous, ça ?
Oui, c'est mon cas, mais c'est le cas aussi d'autres. Hein. Il n'y a pas que moi dans ce
livre. Oui, non, mais...
bien sûr, mais c'est aussi votre cas, Jean-Pierre
Non, les héros parlent comme l'auteur.
Oui, mais pas tous, hein. C'est le narrateur essentiellement.
En fait, vous voulez, Pierre Assouline, nous alerter, nous sommes tous embarqués dans des croisières qui peuvent finir mal.
Oui, parce que le souci de l'Europe qu'a mon narrateur, c'est quelque chose qui a des résonances aujourd'hui, bien entendu. Des analogies. Moi, je parle plutôt de résonance ou de concordance des temps, beaucoup plus que de l'histoire qui bégaye ou autre. Parce qu'effectivement, c'est très troublant. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce livre, le narrateur dit « Lisez Mein Kampf ». Vous auriez dû le lire, on est en 32, hein. Donc à quelques mois de la prise du pouvoir par Hitler, lisez-le parce que tout est dedans. L'asservissement de l'Europe, la haine des Français, la haine des Juifs, etc. Eh bien, je ne peux pas ne pas penser, sans faire de parallèle entre Hitler et Poutine, évidemment, que Poutine, si on l'avait lu attentivement et écouté ses discours d'il y a 20 ans déjà, tout était annoncé, tout était programmé de ce qui se passe aujourd'hui.
Donc en fait, vous adressez un avertissement aux Européens qui sont en train de s'entretuer avec les bombes, les villes martyrs, les morts, et sur leur continent, comme vous citez l'Ukraine. Et vous nous dites donc attention à la guerre, au chaos... peut-être un naufrage aussi.
Surtout, prenez garde à faire attention à ce que disent les dictateurs. Ne balayez pas ça en se disant, après tout, ce sont des délires, c'est de la folie. Non, pas du tout.
Au début, on ne sait pas que ce sont des dictateurs.
Non, mais Poutine...
Surtout quand ils sont élus au suffrage universel.
Oui, mais ça c'est encore autre chose.
Alors, le Georges Philippard, le nom du bateau, qui est si puissant, si beau, si neuf, il va faire naufrage dans la nuit du 15 au 16 mai 1932, alors que la mer est calme. Qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est qu'il y a un court-circuit, une fois de plus. Il y a une dame qui se plaint depuis le début, une passagère, Madame Valentin, qui dit « Quand j'allume ma liseuse dans ma cabine, il y a des étincelles à chaque fois et on le lui répare. » Et là, on vient lui réparer en lui disant « Mais non, c'est rien, ça va passer. » Sauf que le temps de dire ça, la cabine a pris feu parce que les cabines des premières et l'entrepont des premières est entièrement en acajou. Il n'y a pas de pellicule pour protéger tout ça. C'est une boîte d'allumettes, une cabine.
Oui, il y en a une qui dit que chaque cabine est une boîte d'allumettes.
Et ça brûle.
Et c'est en acajou, en chêne, en platane, vous dites, et donc...
La décoration est superbe, sauf qu'au point de vue de la sécurité, ce n'est pas du tout au point. Et en quelques minutes, le feu prend et le bateau va s'embraser dans un incendie.
Il est 1h50 du matin, ça va durer jusqu'à 5h.
Oui.
Il y a l'incendie qui se déclare à partir du court-circuit.
Toutes les chaloupes sont à l'eau. Il y a des gens qui se jettent à l'eau. Il y en a qui ne savent pas nager. Il y en a qui s'en tirent très bien. Il y a des gens qui brûlent dans la cabine. Il y a des, même des parents qui voient leurs enfants brûler dans la cabine. C'est un cauchemar absolu.
C'est pas le Titanic, quand même.
On est 20 ans après le Titanic. Mais 20 ans, c'est hier. Le Titanic est dans la mémoire de tout le monde. Le Titanic, ça a été une catastrophe terrible, vu le nombre de morts. Là, il y aura une quarantaine de morts sur environ 800 passagers. Vous allez dire, c'est peu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup quand
même. Ce sont des drames individuels. Et alors, mais heureusement, parce qu'il y a des navires, d'après ce que vous racontez, qui étaient dans les parages, ils sont venus vite les sauver. Sinon, la catastrophe et le bilan seraient beaucoup plus graves. Et parmi les victimes, il y a un de nos confrères prestigieux, un modèle, Albert Londres. Lui, il ne sait pas nager, il va se noyer.
Soit il s'est noyé, parce qu'il ne savait pas nager, soit il a brûlé dans sa cabine. On n'a jamais su. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait partie des 40 qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé les corps.
Il était discret, il vivait dans sa cabine, il travaillait. De sorte qu'il y a eu des documents, peut-être secrets, dans sa cabine et dans une serviette.
Oui. Cette serviette, il a eu le temps de la transmettre à son meilleur ami, qui ensuite a pris un avion privé pour ramener cette enquête explosive sur laquelle on ne savait rien. Personne ne savait rien sur le sujet de cette enquête. Et chose incroyable, cet avion privé s'est crashé au-dessus de la frontière italienne.
Donc on n'a pas retrouvé les documents.
On n'a jamais retrouvé.
On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'on peut supporter?
On a jamais supposé. On a supposé que c'était quelque chose sur le trafic d'opium dans lequel
auraient
été mêlés les parlementaires français. On a supposé que c'était sur les trafics d'armes.
C'est un incendie ou un attentat?
Ce n'est pas un attentat. Quand on veut tuer quelqu'un. Et des gens voulaient la mort d'Albert Londres. Il se baladait tous les soirs à Shanghai pendant le couvre-feu. On lui mettait une balle dans la tête, ce n'était pas un problème. On ne va pas provoquer le naufrage d'un immense paquebot pour tuer une personne.
Et il est resté une étrange maquette du bateau, qui est aussi une histoire particulière.
Oui, parce que le propriétaire de l'armateur avait dit « Quand je mourrai, je voudrais que c'est la maquette qui était grande comme ça, qui était sur son bureau, soit immergé au large de Brest, dans une cérémonie. » Et c'est ce qui a été fait, sauf que 30 ans après, des pêcheurs l'ont ramassé dans leur filet, il a fallu la réémerger à nouveau.
Est-ce que vous êtes pessimiste au point de nous dire « Attention, il va y avoir encore une guerre ?» Oui, d'ailleurs, il y en a une sur le continent, mais à l'échelle mondiale.
Je n'en sais rien, mais personne n'en sait rien. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut prendre au sérieux les dictateurs et il ne faut jamais négliger leurs messages. Il faut les lire et les écouter.
D'ailleurs, votre message, c'est « Ne fumons pas le calumet de la guerre ». Et ça, c'est une très belle formule. Pendant la pandémie et les confinements, les livres ont battu des records de vente. Les libraires espèrent que ces succès vont continuer et les éditeurs actuels ne boutent plus ce qui devient le festival du livre. C'est-à-dire que nous sommes en France, même si nous ne le croyons pas, de très bons lecteurs.
C'est l'exception culturelle française, à la fois par la qualité du public qui se rue sur les livres, car ça n'a pas cessé. De toutes les industries culturelles, comme vous le savez, le livre, c'est celle qui n'a pas souffert. Non seulement elle n'a pas souffert de la pandémie, mais au contraire.
Elle est un porteur, en quelque sorte. Mais on ne veut pas de confinement, on ne veut pas de pandémie, mais on veut continuer à lire. Vous avez écrit plusieurs biographies, 11, je les ai calculées, et j'ai lu la plupart, Gaston Gallimard, Dassault, Hergé, Albert Londres, Simenon et d'autres. Vous mêlez l'imagination aux archives.
Oui.
Et ici, nous recevons quelquefois notre ami, le grand historien Emmanuel de Varesquel, et lui, il dit « Le passé pour éclairer le présent et préparer l'avenir, même s'il est imprévisible. »
Oui, préparer l'avenir, autant que faire se peut. Hein. Mais en tout cas, pour l'éclairer, pour rayonner sur le présent, oui, bien sûr, sans faire pour autant de la prospective.
Vous avez le goût des archives ?
J'ai le goût des archives. Moi, ce qui m'intéresse, puisque j'ai deux passions qui sont l'histoire et la littérature, c'est la mise en scène de l'histoire par la littérature.
La mise en scène.
La mise en scène.
Donc il y a une part d'imagination.
Forcément.
De fiction.
Forcément.
Et qu'est-ce qui vous attire quand vous commencez à choisir un sujet?
C'est la curiosité. Toujours la curiosité. C'est ce qui fait qu'on est journaliste.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre, vous avez dit 30, 40 ans, simplement avec l'obsession de la littérature et du livre?
Oui, on peut, bien sûr. Bien sûr, parce qu'elle est partout. Et elle donne des vérités que les historiens ne peuvent pas donner.
Alors, dans le livre, vous dites à un moment, ou un personnage, hein, il y a des malheurs qui remonte le moral.
Oui.
Et j'ai envie de dire, eh bien, avec l'état du monde d'aujourd'hui, on doit avoir un moral d'acier.
Oui, on peut le dire ainsi.
Merci d'être venu. Bonne journée. Bon Merci. Festival
Merci.
Du livre qui est encore une fois sur le Champ de Mars.
Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous Pierre Assouline. Et demain, votre interview, bien sûr, même heure, même endroit. Jean-Pierre, tout de suite, l'actualité en bref. Elisa Lukavski.
Le secrétaire général de l'ONU se rendra en Ukraine la semaine prochaine. Antonio Guterres ira d'abord en Russie où il rencontrera Vladimir Poutine avant de s'entretenir deux jours plus tard avec Volodymyr Zelensky. Il compte aussi rencontrer les équipes des agences de l'ONU pour discuter d'un renforcement de l'aide humanitaire à destination des Ukrainiens. Mieux lutter contre les appels au meurtre, les images pédophiles ou encore les campagnes de désinformation. Voilà l'objectif d'une nouvelle réforme historique de la part de l'Union européenne. Le texte doit responsabiliser les grandes plateformes du numérique comme Facebook ou encore Amazon en les contraignant à supprimer les contenus illégaux et à mieux coopérer avec les autorités. Un lycéen de 16 ans a hier été poignardé. Ça s'est passé dans son établissement à Chelles, en Seine-et-Marne. La victime a été touchée par 5 coups de couteau, selon une source proche du dossier. Le pronostic vital du lycéen n'est pas engagé. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur serait extérieur à l'établissement.
Merci Elisa. Dans un instant, la matinale week-end continue face à Guillaume Bigot. Ce matin, ce sera Guillaume Perrault. Au programme, bien sûr, la situation en Ukraine après 2 mois de guerre. Vladimir Poutine affiche maintenant clairement son objectif, prendre totalement le Sud et le Donbass. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Il est 8h20, vous êtes avec nous dans la matinale week-end. Merci de continuer à nous suivre. C'est l'heure du face à Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Face à vous ce matin, Guillaume Perrault, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes rédacteur en chef à Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 23 avril. On va parler bien sûr de la guerre en Ukraine. Moscou affiche aujourd'hui très clairement ses ambitions, le contrôle total du Donbass et du sud du pays. Le but étant d'assurer ce fameux couloir terrestre vers la Crimée et peser sur les infrastructures vitales de l'économie ukrainienne. Le point sur la situation où les habitants, vous allez le voir aussi, entre déni et fatalisme, Sibylle Delettre.
C'est un petit îlot de normalité au milieu du chaos. À Lysychansk, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain, un devoir pour cette femme de 45 ans.
Ça fait 20 ans que je travaille ici. Comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain? Si je n'étais pas là, que mangeraient-ils?
Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines à venir se ravitailler ici chaque jour.
Si les Russes gagnent, tout changerait, tout. Ce serait le Moyen-Âge, ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça.
À quelques kilomètres de là, à Severodonetsk, les derniers civils se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir. Elles nous disent « Nous sommes nés ici, nous mourrons ici ».
Les bombardements résonnent au loin, alors que la guerre entrera dimanche dans son 3e mois. Aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine.
L'avenir de l'Ukraine se joue-t-il maintenant exclusivement dans l'est du pays? On en parle juste après avoir entendu le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Les forces armées de l'Ukraine continuent de décourager les attaques de l'envahisseur russe dans l'est et le sud de notre pays. La direction d'Izium, Donbass, Priazovia, Mariupol, la région de Kherson sont les lieux où se joue le sort de cette guerre et l'avenir de notre État.
Guillaume Bigot, c'est ça ce qui va se passer. Comme l'affiche Moscou désormais, très clairement, tout se passe à l'Est et c'est là que ça va se jouer.
J'allais dire que ça se passe depuis toujours à l'Est et que ce conflit, on l'oublie, il a démarré en 2014. Donc depuis 2014, la principale pomme de discorde...
Avec l'annexion de la Crimée.
C'est le Donbass. Oui, mais la Crimée est tombée. Et elle est tombée très rapidement. Donc elle n'est plus un sujet. Et je rappelle par ailleurs que la Crimée n'avait jamais été ukrainienne. C'était un don de Khrouchtchev. à l'Ukraine. Donc c'était une sorte d'aberration. Donc cette Crimée, elle était sortie du jeu. En réalité, la tension militaire et la tension, la tension civile aussi très très forte, était dans cette région-là. Et dans cette région-là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014, où effectivement les petits hommes verts, soi-disant sans lien avec Poutine, se sont installés. Il y a eu une ligne de front, d'une part, et d'autre part, il y a eu le gros de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire la partie la plus aguerrie de l'armée ukrainienne. Vous savez, dans toutes les armées sont très clivées en général. Vous avez un fer de lance et puis vous avez le gros de la troupe. Bon, qui est utile parce qu'il ravitaille, etc. Mais les gens qui se battent, il n'y en a pas tant que ça. Les gens qui sont préparés et formés au combat, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui sont les plus aguerris sont du côté ukrainien au Donbass. Et ils sont au Donbass depuis 2014. Alors le grand stratège Clausewitz dit que grosso modo, ceux qui attaquent ont un désavantage par rapport à ceux qui défendent, qui donc ont un avantage. Sauf, dit-il, si ceux qui attaquent bénéficient d'un effet de surprise. Bah, ce ne sera pas le cas au Donbass, parce que les 50 000 hommes, les 50, 90 000, il y a plusieurs interprétations possibles, retranchés, vraiment retranchés au Donbass, depuis, vraiment dans ce qui ressemble un peu à une ligne Maginot, ils les attendent depuis 8 ans, les Russes. Donc il ne va y avoir aucun avantage. Mais d'un autre côté, voilà, c'est là la complexité de ce système, c'est que l'armée ukrainienne va être reconcentrée, sa puissance de feu est incomparable par rapport à l'armée russe, pardon, va se reconcentrer, excusez-moi, et sa puissance de feu est incomparable par rapport à l'armée ukrainienne. Donc il va y avoir un choc titanesque au Donbass.
Et ça veut dire, Guillaume Perrault, qu'il y aura un enlisement à l'Est, une guerre de tranchées finalement?
Oh, c'est très difficile à prévoir. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le Donbass est une région particulière au sein même de l'Ukraine. C'est là qu'a eu lieu l'industrialisation de la Russie tsariste à la fin du 19e siècle et aussi de l'URSS dans les années 30. On se souvient du fameux Stakhanov qui a donné Stakhanovisme. Exact. Il était là, Stakhanov. C'est dans les mines du Donbass qu'il a fait ses exploits, ou exploits prétendus, parce que certains disent que c'était du chiquet vendu par la propagande stalinienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans l'imaginaire des Russes, je me place du point de vue des Russes, c'est un peu comme la sidérurgie Lorraine et le Donbass. C'est une région aujourd'hui en crise, mais qui est très liée à leur histoire, à leur passé. Ça ne justifie rien, je donne juste ces éléments d'histoire. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est c'est une région qui a été très éprouvée par l'Holodomor, c'est ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, c'est-à-dire l'assassinat par la faim de 3 à 4 millions de paysans ukrainiens vers 32, sous Staline.
Quel rapport ukrainien et russe, en général.
Ukrainien et russe, si vous voulez, mais c'est essentiel. C'est quand même la paysannerie ukrainienne qui était visée. C'était aussi au Kazakhstan. Mais il y avait un élément intentionnel dans le cas des Ukrainiens. Quel rapport avec ce qui nous occupe aujourd'hui? C'est que suite à ça, suite à ce que les Ukrainiens considèrent comme un génocide, le pouvoir soviétique a implanté des Russes. Il a fait venir dans le Donbass des populations russes pour combler les trous, si vous voulez, dans le but, d'abord, quand même, toujours d'expansion territoriale, il y a toujours cette idée, et aussi pour exploiter les mines du Donbass. Donc, ça donne une région assez particulière, avec des mémoires mêlées, des légitimités contradictoires, des conflits de loyauté. On a vu une dame parfaitement sincère dans son aversion pour les Russes, mais il faut aussi voir que depuis 2014, vous avez 1 million d'habitants du Donbass qui a fui de l'autre côté, côté russe. Donc c'est très difficile de s'y retrouver parce que c'est une région tout à fait clivée, partagée. Et il y a des gens qui regrettent, disons une génération qui a connu l'Union soviétique et qui regrette le Donbass de l'époque de l'URSS, avant que toutes ces mines soient en crise et ferment, parce qu'évidemment, le mineur était prestigieux, valorisé socialement, et que la vie était moins dure qu'aujourd'hui pour ces gens-là.
Guillaume Bigot, il y a la situation aussi à Mariupol, cette ville martyre dont on parle depuis des semaines maintenant, et pour laquelle Vladimir Poutine revendique la victoire, alors que Joe Biden, lui, dit « attendons d'avoir des preuves ». Mais très clairement, cette ville va tomber, vraisemblablement, dans les heures qui viennent, et qu'est-ce que ça changera ?
En fait, on va se rendre compte que Mariupol, c'est 10 fois, 1000 fois Boutcha, pour une raison qui n'est pas une volonté génocidaire des Russes, qui est une raison tactique, hélas. C'est-à-dire, ça ne justifie pas du tout les massacres intolérables et complètement fous à Boutcha, mais parce que, en fait, les troupes russes sont aussi visées par des gens qui sont des immeubles civils. Et ces troupes russes, elles ont une appréhension très forte des combats de guérilla urbaine. D'ailleurs, toutes les armées ne veulent pas se battre dans les villes. C'est terrifiant, se battre dans une ville. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas ce qu'on peut avoir, nous, les Américains, c'est-à-dire des troupes très aguerries et entraînées spécifiquement à ça, au sol. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, les Russes, essentiellement ? Ils ont une artillerie. Et ils bombardent et ils écrasent. Donc dès lors qu'il y a des tirs qui sont identifiés depuis des immeubles civils, ils vont détruire ces immeubles civils. Ce qu'on a vu partout ailleurs sur le territoire, là, et ce qu'on voit, et Mariupol est une ville martyre, et c'est une ville qui est quasiment rasée. Enfin, c'est un tas de ruines. Et donc les gens qui restent là, qui sont enterrés. Ça a été assez compliqué. La Russie leur a proposé parfois de sortir, de faire des corridors humanitaires, mais ils avaient peur que les fameux bataillons Azov se mêlent aussi à ces corridors humanitaires. Et ils voulaient absolument, vous savez, on a aussi, nous, la France, proposé une mission humanitaire avec la Turquie pour évacuer ces gens de Mariupol. C'est un port, rappelons-le, c'est le port du Donbass. Et en fait, ça a été refusé par les Russes parce que les Russes voulaient que les gens passent par l'Est, c'est-à-dire passent par la Russie pour justement pouvoir faire le tri. Parce qu'en cas d'évacuation, en général, les combattants en profitent aussi pour s'exfiltrer. Donc ça n'a pas été possible, donc c'est effectivement une ville martyre. Ce qu'on peut dire, c'est finalement Mariupol, ça va être mille fois Boutcha, et le Donbass, ça va être mille fois Mariupol.
Et il y a quelques instants, vous évoquiez la puissance de feu et de frappe de l'armée russe, mais cette armée subit de nombreuses pertes également. On va en parler dans un instant. D'abord, les principaux titres de l'actualité, Elisa.
L'armée française accuse les mercenaires du groupe Wagner d'avoir mis en scène un charnier. Elle a filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi, dans le nord du Mali. L'objectif serait, selon l'armée française, d'accuser les Français d'avoir laissé derrière eux un charnier. Ce dernier a été découvert quelques heures plus tard par des soldats maliens. Une explosion dans une mosquée soufie en Afghanistan a fait au moins 33 morts, annonce faite par les talibans hier et au lendemain de deux attentats revendiqués par le groupe État islamique. Depuis que les talibans contrôlent le pays, le nombre d'attentats à la bombe a diminué, mais les djihadistes de l'État islamique poursuivent leurs attaques contre des cibles qu'ils jugent hérétiques. Du rugby avec le tournoi Destination Féminin. Belle opération des Bleus hier face au Pays de Galles avec un large succès, 33-5 avec 5 essais inscrits côté français. Les joueuses du 15 de France ont remporté tous leurs matchs depuis le début du tournoi et sont en tête du classement. L'affrontement du week-end prochain face aux Anglaises tenantes du titre sera décisif dans la course au Grand Chelem et à la victoire finale.
Elisa Lukaski, vous restez avec nous parce qu'on va se pencher maintenant sur le bilan après deux mois de guerre des pertes russes. Un bilan plutôt lourd finalement.
Oui. Pour ce qui est du Moskva, ce croiseur russe qui a fait naufrage la semaine dernière, eh bien, le ministère russe de la Défense a hier fait état d'un mort et de 27 membres d'équipage disparus. Les 396 autres personnes qui se trouvaient à bord du bateau auraient été évacuées. C'est la première fois, hein. C'est important que les autorités russes reconnaissent des pertes lors de ce naufrage. Elles avaient même affirmé dans un premier temps que tout l'équipage était sauf. Ce qu'on constate, eh bien, c'est que les pertes russes, elles sont chiffrées différemment, hein, selon qu'on se place du côté ukrainien ou du côté du Kremlin. Le ministère de la Défense ukrainien a hier dressé un bilan de ces pertes russes depuis le début de l'offensive. Regardez, 21 200 soldats seraient morts, 176 avions, 153 hélicoptères ont été touchés, 838 chars d'assaut, 2162 blindés et 8 bateaux qui ont été mis hors d'usage. Côté russe, eh bien depuis le début du conflit, seulement deux bilans officiels ont été fournis. Le second, il date du 29 mars et il annonçait 1531 morts et 3825 blessés. Des chiffres qui seraient largement sous-évalués. Il y a un petit peu plus de deux semaines, le gouvernement russe évoquait, je cite, « des pertes militaires importantes sans pour autant les chiffrer ».
Merci beaucoup Elisa. Bataille de communication, bataille de chiffres aussi évidemment, Guillaume Bigot. Mais clairement, ces pertes sont plus lourdes que ce qu'imaginait Vladimir Poutine.
Elles sont évidemment plus lourdes que ce que communique le ministère de la Défense russe, c'est sûr. Sont-elles aussi lourdes que ce que communique le ministère de la Défense ukrainien ? Moi, je ne prendrai pas le risque de l'affirmer. Le ministre, d'ailleurs, on voit bien que nous sommes partie prenante dans cette guerre, puisque nous ne parlons que des pertes communiquées par le ministère de la Défense ukrainien. Le ministère de la Défense russe, lui, communique des pertes sur les Ukrainiens, sur les militaires ukrainiens, qui sont probablement très exagérées, comme les pertes russes du côté des militaires, du ministère ukrainien. On voit bien que dans une guerre, l'information, c'est une arme. C'est une arme qui sert à démoraliser l'adversaire. Et donc, oui, les pertes ont été très importantes, très difficiles de les évaluer, très, très difficiles. D'autant plus difficiles, il y a un détail un peu sordide, mais qu'effectivement, les Ukrainiens, comme les Russes, ont des incinérateurs roulants, donc brûlent assez rapidement les cadavres et de civils et de soldats. Donc il y a des gens qui sont disparus, pardon de ces détails sordides le matin, mais
c'est une réalité.
C'est une réalité parce que ça a pesé très lourd dans la guerre en Afghanistan, les gens qui revenaient dans les cercueils, etc. Voilà, donc les pertes sont très importantes. Il faut imaginer, il faut dire aussi à nos téléspectateurs que quand vous avez un mort dans une armée, en général, vous pouvez compter 3, 4, 5, parfois 10 fois plus de gens hors combat. C'est-à-dire de gens qui vont être blessés, plus ou moins gravement, traumatisés, etc., qui ne pourront pas retourner au combat. Donc 10 000 morts, ça veut dire en fait 40 000 personnes qui sont quasiment hors de combat au minimum. Donc c'est très très lourd. L'attrition a été importante du côté des forces russes. L'attrition du côté des forces ukrainiennes aussi très importante. Peut-être un peu plus de civils que de militaires, parce que pour les raisons que j'avais expliquées, c'est-à-dire que même si les civils ukrainiens, dès lors que des militaires ukrainiens tirent depuis des immeubles, ils partent tout de suite parce qu'ils savent ce que ça veut dire, qu'il va y avoir immédiatement une riposte de l'artillerie russe, mais tout de même, ils ne peuvent pas partir, parfois ils sont encerclés, parfois les armes utilisées par les Russes, je ne veux pas les défendre, sont des armes thermobariques qui sont absolument terrifiantes, qui vont faire des pertes très en profondeur et qui vont absolument tuer toute âme qui vive, même les gens qui sont cachés dans les sous-sols, si vous voulez. Donc c'est une guerre évidemment très 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 dure, et ce qu'on peut dire simplement, c'est que le potentiel militaire ukrainien, modulo, et c'est ça qui est assez complexe à estimer, l'arrivée d'armes de l'OTAN, le potentiel militaire ukrainien a été quand même très sévèrement endommagé par les frappes russes.
Guillaume Perrault.
Il y a la bataille des chiffres que vous évoquez. Ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a une disproportion entre les ambitions initiales des Russes et les moyens dont ils disposaient. Et il y a eu une présomption énorme de la part des autorités russes. Donc ils ont été obligés de revoir leur ambitions à la baisse. Pourquoi ? Parce que cette guerre, dans sa première phase, a vérifié les lacunes traditionnelles de l'armée russe qui ont été constatées lors de chaque conflit. Quelles sont-elles ? Les problèmes, tout ce qui est un peu subtil, si vous voulez, la maintenance des équipements, la logistique, la coordination entre différentes armes, le renseignement ont montré des lacunes absolument stupéfiantes. Et ils ont par ailleurs manifesté un manque de considération pour leurs propres soldats qui était invraisemblable. Quand vous pensez que certains prisonniers de guerre affirment qu'on leur avait dit qu'ils partaient en manœuvre, si c'est vrai, ça, c'est tout de même sidérant. Il n'y a pas seulement le discours qui est « vous allez être accueillis avec des fleurs, du pain et du sel ». Ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui, semble-t-il, ont été sincèrement stupéfaits de se retrouver lancés là-dedans. Voilà. Il y a aussi un problème d'encadrement. L'encadrement intermédiaire, les sous-officiers ou l'équivalent de nos sous-officiers ou lieutenants, semble assez peu nombreux dans l'armée russe. Et puis, être dans l'armée russe, ce n'est pas très recherché. Alors, ça a toujours été, pour le soldat du rang, c'est souvent des gens issus de milieux populaires dans toutes les armées du monde. Mais les Russes ont, même chez eux, du mal à recruter des soldats. Ça ne fait pas envie. Il n'y a pas cette espèce de contrat social qu'il y a dans les pays démocratiques. C'est très violent, c'est très brutal au sein de l'armée russe. Et donc, quels sont les... ça a toujours existé. On pensait que depuis la guerre en Géorgie, Poutine affirmait que beaucoup de problèmes de l'armée russe avaient été réglés. On voit qu'il n'en est rien. Quels sont les atouts traditionnels par lesquels les Russes compensent ces tares ? Le courage individuel du soldat russe, il est connu, il ne s'agit en rien de le minorer. Et ce qu'on appelle le rouleau compresseur russe, c'est-à-dire le poids du nombre. Mais là, ils ne l'ont plus. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils soient capables, c'est qu'ils annoncent 60 000 hommes. Dans le Donbass, 60 000 seulement, c'est pas grand-chose. On a tous en tête, on a été victimes, si vous voulez, du passé, parce qu'on avait en tête ces effectifs gigantesques de l'armée rouge, mais c'est terminé tout ça. Les effectifs qu'ils ont aujourd'hui alignés sont beaucoup plus modestes, et donc comme ils peuvent plus compter sur l'avantage du nombre et ils peuvent moins être indifférents aux pertes qu'avant, qu'est-ce qu'il leur reste ? La puissance de feu, ça a été dit par Guillaume, la puissance de feu tout azimut qui déploie pour compenser leur handicap.
Bataille de communication, bataille d'information. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe entre Paris et Moscou cette fois, avec entre les deux le Mali. L'armée française affirme qu'elle a filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps dans le nord du Mali. Et ces mercenaires de la force Wagner visaient, eux, à accuser Paris des exactions au moment du départ des troupes françaises. Qu'est-ce qui se joue là, Guillaume Bigot ?
Bah, il se joue que la Russie veut remplacer la France, voilà, et rejoindre ses petits copains chinois qui sont déjà très actifs depuis plus de deux décennies pour récupérer les matières premières africaines. Ça me semble très clair. D'ailleurs, une information, l'armée russe nous avait proposé, je crois c'était sous le mandat de François Hollande, de nous aider au moment où nous sommes intervenus la première fois au Mali, en disant bah, « vous avez la connaissance des populations, vous avez la connaissance du terrain, vous êtes appelé à l'aide par le Mali ». Il faut dire que le Mali, c'est un pays qui a toujours qui a une certaine proximité aussi avec l'Union soviétique. Donc, ils nous ont dit « voilà, on peut vous envoyer d'une certaine façon des supplétifs ». Alors, on avait refusé pour une raison simple, c'est qu'on savait bien que c'était faire rentrer le loup dans la bergerie. On savait bien que les Russes n'avaient qu'une idée, c'était supplanter l'armée française sur place. Maintenant, on a creusé notre propre tombe. Là, je ne fais pas du tout allusion à ces images, on va y revenir. Pourquoi on a creusé notre propre tombe ? Parce que rentrer à la demande des Maliens, faire le travail, c'est-à-dire abîmer les forces djihadistes, c'était parfait. D'ailleurs, on a été accueillis en héros, mais il fallait le plus rapidement possible partir, ce que beaucoup de stratèges ont expliqué, pour ensuite, éventuellement, parce qu'il y avait un risque important, être rappelé à nouveau par le Mali et donc rentrer, sortir et avoir... Et là, on s'est comporté en force d'occupation. En plus, il y a eu l'erreur de la Centrafrique. Enfin, on n'a pas le temps de développer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'en plus, la situation en chaîne qui est déclenchée par... la guerre russo-ukrainienne, c'est-à-dire la hausse des matières premières, c'est-à-dire le pas d'arrivée d'engrais, c'est-à-dire vraiment des conséquences en cascade économique qui vont aboutir à une situation sociale qui va être tendue ici, mais là-bas, ça va être la famine. Bah oui, ça va faire les affaires des djihadistes. Donc là, ils vont demander, ils vont appeler à l'aide les Russes. Alors pour l'instant, les Russes ne sont pas vraiment disponibles, mais ils vont probablement le faire. Ensuite, ce qu'on voit sur ces images, c'est que bon, là, les atrocités en guerre, soit elles sont utilisées pour effrayer l'adversaire, on met en scène une sorte de barbarie, enfin, on utilise la barbarie comme une arme pour démoraliser l'ennemi, soit on fait croire que l'ennemi est capable des pires atrocités pour motiver l'ardeur au combat. Là, c'est ce qu'on voit. Là, l'idée, c'est de décrédibiliser totalement la France.
On revient en France, justement, avec ce choc à Chelles, en Seine-et-Marne. Un élève de 16 ans a été grièvement blessé de 5 coups de couteau dans son lycée. L'assaillant est en fuite. Et ce drame intervient 2 jours seulement après celui survenu dans un lycée de Longjumeau, en Essonne. La victime, âgée de 16 ans, a elle aussi été grièvement blessée au couteau. Cette fois, il s'agit d'une rixe entre bandes, des drames qui se multiplient. Mais vous allez voir que élèves et parents semblent s'y habituer. Valentine Leboeuf, Régine Delfour et Alice Chaumy.
Une bagarre qui éclate devant un lycée et un jeune de 16 ans entre la vie et la mort. La violence est extrême et pourtant certains élèves en parlent avec un calme et un détachement déconcertant.
Moi je suis pas choquée parce que c'est souvent comme ça. Là, hein.
Donc c'est devenu...
normal, c'est de tous les jours on va dire.
Il y a juste un règlement de compte et c'est tout. C'est vu et revu. C'est pas comme si c'était nouveau.
Ce père de famille est venu chercher son fils devant le lycée. Il n'avait pas conscience de l'ampleur de la rixe et lorsque nous lui expliquons ce qu'il s'est passé, sa réaction est inattendue.
C'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Adultes et jeunes s'habituent à la violence. Selon ce policier, les affrontements sont de plus en plus fréquents.
L'Essonne est composée de pas mal de quartiers populaires où il y a le rassemblement de jeunes, bien évidemment, où c'est un grand nombre, ils sont un grand nombre. Les rixes entre quartiers ont toujours plus ou moins existé, alors pas avec cette violence aujourd'hui qu'on connaît. Voilà, on était sur des affrontements simples, j'ai envie de vous dire, voilà, des bagarres main à main. Là, on est sur des coups de couteau. On a malheureusement connu ça déjà en février 2021 à Boussy-Saint-Antoine avec la mort du jeune. Et puis ça continue.
La solution pour ce policier serait une sanction pénale forte et le renfort de la présence des forces de l'ordre aux alentours des établissements scolaires.
Guillaume Bigot, votre sentiment en écoutant ces élèves, ces parents d'élèves qui ont des réactions totalement stoïques, presque indifférentes, comme si c'était devenu la norme ?
Mais c'est pas comme si, en fait. C'est devenu la norme. Donc ils se sont adaptés. Qu'est-ce qui a changé, finalement ? Alors, oui, mais c'est la banalisation de la violence par les réseaux sociaux. C'est notre regard aussi, notre regard, je dirais, rousseauiste et très naïf sur le fait que la violence plaît aux enfants, enfin, que les enfants arrachent les ailes des mouches, que les enfants ne sont pas naturellement bons, en fait. Il n'y a que le monde postmoderne mièvre qui pense que les enfants naissent gentils et que la société les rend méchants. Enfin, c'est complètement absurde. Donc, bon, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs phénomènes là-dedans, mais c'est assez complexe à comprendre, somme toute. Ce qui est vrai, c'est un très très beau roman de William Goldin qui s'appelle « Sa majesté des mouches ». Si vous laissez des jeunes, et notamment des jeunes adolescents, livrés à eux-mêmes sans présence des adultes, bah, ils vont se comporter comme des barbares. Naturellement, le petit homme est un barbare, parce qu'en plus, l'être humain, contrairement aux animaux, n'est pas tenu par sa violence n'est pas canalisée par son code génétique, d'une certaine façon. Donc il n'y a qu'un code culturel qui se transmet, qui peut canaliser cette violence. Cette violence, elle existe naturellement. Là, évidemment, le monde postmoderne mièvre ne veut pas la voir. C'est caché ce sein que je ne saurais voir. La nouvelle pornographie n'est plus le sexe. La nouvelle pornographie, c'est le goût des jeunes pour la violence. Donc les mamans bobos ne voient peut-être pas que leurs enfants jouent à des jeux ultra-violents où le sang coule et que ça leur plaît beaucoup, mais c'est pourtant une réalité. Donc cette violence qui existe dans le cœur des hommes, et notamment des jeunes adolescents, la seule solution, c'est d'en faire quelque chose pour la canaliser, la contrôler, et d'en faire finalement une force saine. Mais vous savez, nous sommes la première société humaine sans rite initiatique. C'est sûr. Donc on fait comme si cette violence, elle n'existait pas. Donc si elle n'existe pas, bah, elle va se venger.
Mais ça implique une présence permanente. Votre point de vue dans un instant, Guillaume Perrault, sur ces rixes entre bandes rivales qui se multiplient. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Il est 9h moins le quart avec vous, Elisa Lukaski.
La Russie vise le contrôle du sud de l'Ukraine et du Donbass, annonce faite par Moscou hier, qui recentre donc ses objectifs près de 2 mois après le début de la guerre. Un haut responsable russe a hier parlé de deuxième phase de l'opération spéciale visant entre autres à assurer, je cite, un couloir terrestre vers la Crimée. Une marche blanche à Rennes en hommage à Marie. Cet après-midi à 17h, il y a une dizaine de jours, cette femme a été étranglée devant ses deux filles par son mari, déjà condamné à de la prison pour des faits de violence conjugale. Et puis du sport avec le PSG qui sera peut-être ce soir champion de France pour la 10e fois de son histoire. Les Parisiens qui peuvent être sacrés à l'issue du match contre Lens s'ils ne perdent pas la rencontre. Le collectif des ultras parisiens appelle à sortir du stade à la 75e minute pour fêter le titre, selon le score évidemment. Preuve du contexte tendu entre les joueurs et les supporters en cette fin de saison. PSG Lens, ça sera à suivre dès 21h sur Canal+ décalé.
Merci beaucoup Elisa. Guillaume Perrault, comment canaliser cette violence inhérente, comme le disait Guillaume Bigot, à la jeunesse?
Alors, d'abord, je voudrais dire qu'en effet, dans le passé, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les rixes entre bandes de jeunes étaient courantes en France, entre villages ou même en ville, entre jeunes de corporations. Ceci ne veut pas du tout dire qu'il faut tomber dans le relativisme. Pourquoi je fais ce rappel historique? Parce que la violence s'est ensuite effondrée progressivement. Et vers 1900, ces pulsions individuelles de violence que tout le monde peut éprouver à un moment ou à un autre ont été domestiquées par l'État et par la société, parce qu'il y avait en effet des processus de socialisation très puissants. L'école, le service militaire pour les jeunes adultes, et vous aviez des interdits moraux qui fait que ce phénomène très ancien était devenu résiduel. Et de nouveau, depuis plusieurs décennies déjà, il repart à la hausse. Donc certes, ce n'est pas inédit, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de changement. C'est le syndrome, si vous voulez, d'une crise de l'autorité de l'État, d'un effondrement effectivement des rites initiatiques et des processus de socialisation, de l'individualisme roi, moi, de l'indifférence envers le regard qu'on porte sur vous si vous n'êtes pas du petit groupe qui vous entoure. C'est-à-dire que la peur du blâme de la société a disparu, le blâme moral, puis la peur de la sanction pénale a disparu, en tout cas pour ce qui est des jeunes, parce qu'il est vrai que le droit pénal des mineurs est très protecteur, et le délinquant, s'il a moins de 18 ans, est d'abord considéré comme un jeune qu'il faut protéger contre lui-même et éduquer avant de le sanctionner. Donc tout ça se mêle pour la situation très complexe, pour arriver à la situation très complexe qu'on voit. Et puis j'ajoute, c'est une société morcelée, moins homogène qu'avant, et tout ça joue évidemment pour expliquer ces drames que l'on voit.
Guillaume Bigot, vous avez balayé assez rapidement les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais est-ce que ça n'a pas un impact aussi? Non, régulièrement on baigne dans une violence virtuelle, est-ce qu'on n'est pas amené à transgresser les lois de la société quand on est dans la vie quotidienne?
Ça sert moins de catalyseur ou de cause que de symptômes. Ça révèle la présence de cette excitation morbide, du goût de faire mal à l'autre, d'exercer sa puissance, sa toute puissance, surtout quand on a un jeune adolescent, garçon, etc. Je pense que toute société civilisée, que ce soit une société traditionnelle ou pas, une société villageoise, une société peu importe, c'est des sociétés dans lesquelles ce phénomène est reconnu. Et il est socialisé, en quelque sorte, il est traité. Donc on n'évacue pas la violence, je crois. Il y a une sorte de règle de Lavoisier qui s'applique aussi en sociologie ou dans la société. C'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si vous prenez des adolescents violents, vous pouvez les former à être des combattants de boxe, de karaté ou des soldats. Ils seront ensuite extrêmement calmes. Cette violence, elle s'est transformée en force. Et un peu comme le sexe peut devenir l'amour. Il y a une sublimation de l'instinct. Si vous dites le sexe n'existe pas, vous faites des sociétés de tarés obsédés sexuels. Et c'était un peu le cas de la bourgeoisie au 19e siècle. Le sexe n'existe pas, le sexe féminin, c'est pas possible, le désir, etc. Tout le roman du 19e raconte ça. Aujourd'hui, le monde postmoderne raconte que la pulsion violente n'existe pas. Oh, c'est méchant, c'est la société, etc. Voilà, ça ne marche pas. Et alors, il y a quelque chose, d'une mécanique diabolique sur laquelle il me semble important d'insister aujourd'hui, c'est que coexistons des modèles familiaux traditionnels, dont sont issus la plupart des jeunes issus de l'immigration, qui ont encore des châtiments corporels à la maison, je ne dis pas que c'est bien, je constate simplement, qui ont une société d'une certaine façon, qui ne refoule pas cette violence, qui ne considère pas que c'est un tabou, ils fréquentent des jeunes qui sont issus de sociétés postmodernes dans lesquelles le tabou absolu, la pornographie totale, c'est la pulsion violente. Donc le mélange des deux fait que vous avez des renards et vous avez finalement des moutons, en même temps, enfin des loups ou des moutons. Et c'est effectivement tragique et terrifiant. Ce qui rend les loups dangereux, c'est qu'il y a des moutons en face. S'il n'y avait que des gens domestiqués de part et d'autre, tout irait bien.
Elle coûte de plus en plus cher, mais pour certains, c'est de moins en moins simple de s'en passer. Je parle de la voiture, bien sûr, essentielle pour les Français, à en croire une étude IFOP qui montre que c'est de loin le premier moyen de transport. 72% des sondés se déclarent ainsi dépendants. Reportage dans le Médoc, signé Jérôme Rampenou.
Jason est musicien et photographe dans le Médoc. Il travaille pour plusieurs associations. Et il lui est impossible de se passer de sa voiture.
Entre le boulot de prof de musique et le boulot de photographe, je dois faire entre 400 et 600 km par semaine, 500 en moyenne, quoi.
Ils ont deux véhicules dans le foyer car sa compagne alterne les contrats et ne peut pas non plus se passer de moyens de locomotion.
Elle se retrouve dans des situations où on lui propose un job loin et où elle perd de l'argent si elle accepte de travailler entre les aides qu'elle a et son salaire. Si elle enlève l'essence, elle perd de l'argent. Donc parfois, elle accepte de travailler et au final, on a moins à la fin du mois.
Ils ont calculé que chaque mois, c'est l'équivalent d'un salaire qui part en essence. Et ils ne sont pas les seuls. Pour faire ses courses à la campagne ou rejoindre Bordeaux, on n'a pas vraiment le choix.
On est à 8 km là, je ne vais pas me trimballer les courses, c'est impossible.
Il n'y a aucun transport en commun, bien sûr.
Ah non, là, non, on est trop éloigné de la ville, là, c'est sûr.
Après, il y a la gare sur Mâcon, mais il faut aller à Mâcon d'abord en voiture, après, il faut prendre la gare, après, il faut rentrer, il faut aller sur Bordeaux, et puis après Bordeaux, il faut prendre le tramway, les vélos électriques. Enfin, non, c'est trop compliqué, quoi.
Malgré le coût d'une voiture en essence et en entretien, beaucoup ne voudraient pas retourner dans les grandes agglomérations où les loyers sont plus élevés et le cadre de vie beaucoup moins calme.
Et Guillaume Perrault, on tape beaucoup sur la voiture pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques, finalement. On n'a pas trouvé mieux.
Oui, vous avez tout à fait raison de faire de ce reportage. Il faut conserver à l'esprit que c'est une nécessité vitale pour des millions de Français, la voiture. Et plus vous vous éloignez du cœur des métropoles, qui ne concentrent qu'une partie de la population française, plus le recours à la voiture est indispensable. Et Jérôme Fourquet de l'IFOP a même une thèse intéressante selon laquelle non seulement la répartition spatiale des Français, mais le recours à la voiture forge une vision de la société et influence les votes, les choix électoraux de façon très nette. Je passe sur cette...
Oui, parce que nous sommes en période de réserve électorale.
Voilà, je passe sur cet aspect. Mais j'irai plus loin. C'est qu'il faut aussi se souvenir que juste dans les années 70 encore, la voiture... Les Français la plébiscitaient par goût. Regardez les films de Claude Sautet. Il y a toujours des bagnoles. Les gens partent en week-end, ils ne mettent pas leur ceinture. Car il faut se souvenir à l'avant. Car il faut se souvenir que je crois que c'est vers 72 que la ceinture a été rendue obligatoire à l'avant. Avant, on faisait ce qu'on voulait.
Et c'était un symbole de liberté. Et je crois que, évidemment, en ce moment, avec le prix de l'essence, on la prend le moins possible. Mais je ne vois pas pourquoi on interdirait aux Français le goût de la voiture pour ceux qui l'ont. Il faut quand même se souvenir que ce discours de prêchi-prêcha moralisateur qu'on a autour de la voiture a été lancé par les Verts en 1974. C'était Dumont, le premier candidat écolo à la présidentielle. Il avait dit « la voiture rend con ». Et c'est à partir de ce moment-là que s'est imposé petit à petit le discours de l'écologie punitive qui n'a pas ma sympathie.
En tout cas, Guillaume Bigot, ça rend dépendant, ça c'est certain.
C'est-à-dire que c'est incroyable, parce que c'était un symbole de liberté, la culture américaine nous l'a vendu comme ça devient un symbole de dépendance. Et ensuite, on voit bien qu'il y a le peuple lent et le peuple rapide, le peuple lent qui cumule tout, c'est-à-dire le peuple lent qui ne peut pas télétravailler parce qu'il n'a même pas de couverture numérique, le peuple lent qui habite trop loin, le peuple lent qui n'a pas des voitures qui sont économes, le peuple lent qui ne peut pas partir en vacances, qui compte ses fins de mois, et tout est plus compliqué et de plus en plus compliqué pour lui. Il y a le phénomène de double injonction, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le choix de faire quelque chose et on vous dit de ne pas le faire parce que ce n'est pas bien, enfin, vous imaginez, assis, couché, enfin, ça devient fou. Et de l'autre côté, le peuple rapide. Et là, le peuple rapide, lui, ne comprend pas, parce que lui, il a la 5G, lui, il se balade en trottinette avec des mobilités douces, lui, il est économe en CO2, lui, il part en avion à l'autre bout du monde, il se fait livrer en Deliveroo, enfin, ça n'a jamais été aussi fluide pour lui. Donc, on a vraiment le peuple lent, le peuple rapide, excusez-moi.
Merci Guillaume Perrault, merci à vous Guillaume Bigot. Guillaume, merci. Vous restez avec nous, on revient dans un instant pour toute l'actualité sur CNews. Sur Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral et Frédéric Taddeï. Bon samedi et à tout de suite.
Merci Isabelle Moreau, on vous retrouve demain et on accueille en effet Frédéric Taddeï. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thierry Dagiral.
C'est arrivé cette semaine au programme.
La guerre en Ukraine qui est entrée dans une nouvelle phase, on va voir ça avec Cédric Mas qui est historien militaire. Elisabeth II qui a fêté cette semaine ses 96 ans. Et je reçois Jean Descartes qui lui consacre une formidable biographie et Diane Ducré qui publie un nouveau roman imprégné de taoïsme.
A tout de suite Frédéric, dans un instant sur Europe 1, toute l'info à 9h à la une. Dernier jour pour faire votre procuration pour le deuxième tour demain. La sécheresse et l'inquiétude des agriculteurs et le PSG peut-être dès ce soir champion de France. A tout de suite sur Europe 1.